Chapitre 3. Réflexion sur l'état actuel des affaires d'Amérique. Je ne donnerai dans les pages suivantes que de simples faits, des raisonnements naturels et du bon sens, et je n'ai d'autres préliminaires à régler avec le lecteur, sinon qu'il se dépouille de tout préjugé et de toute prévention, et qu'il laisse sa raison et sa sensibilité juger par elle-même, qu'il adopte, ou pour mieux dire, qu'il n'abjure point le vrai caractère de l'homme, et que ses idées s'étendent généreusement au-delà du siècle où nous vivons. On a écrit des volumes sur la querelle de la Grande-Bretagne et de l'Amérique. Des personnes de tout rang se sont embarquées dans cette dispute, excitées par divers motifs et par des vues différentes. Mais tous leurs efforts ont été vains, et le temps de la controverse est passé. La guerre, cette ressource extrême, est chargée de décider ce grand procès. Il a plu au monarque de jeter le gant de bataille, et l'Amérique n'a pas craint de le relever. « Monsieur Pelham, dit-on, qui malgré ses talents pour le ministère n'était pas exempt de fautes, a été attaqué dans la Chambre des communes, sur ce que ses mesures n'étaient jamais que pour un temps, répondit qu'elles dureraient autant qu'il serait en place. Si, dans l'affaire des colonies, leur démarche était dirigée par un sentiment aussi funeste et aussi inhumain, la génération future ne se rappellerait qu'avec horreur les noms de leurs ancêtres. » Jamais le soleil n'éclaira une cause plus importante. Ce n'est pas l'affaire d'une ville, d'un comté, d'une province ou d'un royaume. C'est celle d'un continent, d'un huitième pour le moins de la terre habitable. Ce n'est pas l'intérêt d'un jour, d'une année ou d'un siècle. La postérité est virtuellement impliquée dans ce débat et sentira plus ou moins le contre-coup des opinions actuelles jusqu'à la fin des âges. Nous sommes au moment où l'union, la bonne foi, l'honneur des peuples du continent de l'Amérique doivent jeter leurs éternelles semences. La moindre atteinte qui leur sera portée ressemblera aux traits indélébiles que laisse un nom gravé sur l'écorce d'un jeune chêne avec la pointe d'une épingle. L'incision croîtra avec l'arbre et la postérité lira en caractère d'une grosseur frappante le nom qu'il fut chargé de lui transmettre. En mettant la guerre à la place du raisonnement, on a ouvert une nouvelle arène à la politique, on a donné naissance à une nouvelle façon de penser. Tous les plans, toutes les propositions, etc., antérieurs au 19 avril, c'est-à-dire au commencement des hostilités, sont comme les almanachs de l'an passé qui, bons dans leur temps, sont inutiles aujourd'hui. Tous les arguments employés par les avocats de l'un et de l'autre parti n'avaient pour terme qu'un seul et même point. Savoir l'union de l'Amérique avec la mère patrie. Il ne différait que dans la manière d'effectuer cette union, les uns proposant d'y envoyer la force et les autres d'avoir recours aux voies amicales. Mais il est arrivé que la première n'a pas eu de succès et que les autres ont cessé d'exercer leur influence. Comme on a beaucoup parlé des avantages d'une réconciliation dont l'espérance, telle qu'un songe agréable, s'est dissipée en nous laissant au point où nous étions, il convient d'examiner l'autre côté de la question et d'approfondir les griefs capitaux et nombreux dont les colonies ont à se plaindre et dont elles auront à se plaindre à raison de leur rapport avec l'Angleterre et de la dépendance où elles sont vis-à-vis d'elles. Il convient de discuter ces rapports et cette dépendance d'après les principes de la nature et du sens commun, de voir à quoi nous pouvons nous fier si nous sommes séparés de la métropole, ce que nous avons lieu d'attendre si nous sommes dans sa dépendance. J'ai entendu assurer par quelques personnes que l'Amérique ayant prospéré tant qu'elle a eu des rapports intimes avec l'Angleterre, ces mêmes rapports sont nécessaires pour son bonheur et produiront toujours leurs anciens effets. Rien de plus fallacieux que cette manière de raisonner. Autant vaudrait soutenir que parce qu'un enfant a pris des forces tant qu'il a vécu de lait, il ne doit jamais vivre d'autre chose ou que les premiers 20 ans de notre vie doivent nous servir de règle pour les 20 ans qui les suivent. Mais il y a plus. La vérité ne permet pas d'accorder l'hypothèse sur laquelle est fondée cette proposition. Je déclare franchement que l'Amérique eût prospéré autant, et selon toute apparence, beaucoup plus qu'elle n'a fait, si aucune puissance de l'Europe ne s'était mêlée de ses affaires. Le commerce qui l'a enrichi roule sur les nécessités de la vie, et ce commerce-là sera toujours bon tant que l'on conservera en Europe la coutume de manger. Mais l'Angleterre nous a protégés, disent quelques-uns de nos adversaires. Oh oui, je conviens qu'elle a accaparé nos productions et qu'elle a défendu notre territoire à nos dépens comme aux siens. Or, le même motif, savoir l'intérêt de son commerce et l'amour de la domination, l'aurait engagé de même à protéger la Turquie. Hélas, nous fûmes longtemps égarés par d'anciens préjugés. Nous avons fait d'amples sacrifices à la superstition. Nous nous sommes vantés de la protection de la Grande-Bretagne sans prendre garde que l'intérêt et non l'attachement dirigeait sa conduite. Que, si elle nous protégeait contre des ennemis, ce n'était ni contre les nôtres, ni à cause de nous, mais contre ses propres ennemis et à cause d'elle-même, contre ceux qui n'étaient en querelle avec nous que par rapport à elle, et qui seront toujours nos ennemis sous le même point de vue. Que l'Angleterre renonce à ses prétentions sur le continent, ou que celui-ci s'affranchisse de sa dépendance, nous serons en paix avec la France et l'Espagne, lors même que ces puissances seront en guerre avec elle. Les malheurs de la dernière guerre de Hanovre doivent nous mettre en garde contre le danger des liaisons. Quelqu'un s'est permis naguère d'assurer en plein Parlement que les colonies n'ont entre elles de relations que par l'entremise de la métropole, c'est-à-dire que la Pennsylvanie et les Jersey, et ainsi des autres, ne se tiennent que parce qu'elles sont également des colonies anglaises. Voilà à coup sûr une manière fort détournée de prouver une connexion aussi prochaine. Mais c'est au moins la manière la plus simple et la seule incontestable de prouver à quels ennemis on doit s'attendre. La France et l'Espagne n'ont jamais été, et peut-être ne seront jamais nos ennemis, en tant que nous sommes Américains, mais en tant que nous sommes sujets de la Grande-Bretagne. Mais on insiste, on dit que la Grande-Bretagne est notre mère patrie. Eh bien, sa conduite n'en est que plus infâme. Les brutes elles-mêmes ne poussent point l'atrocité jusqu'à dévorer leurs petits. Les sauvages ne font point la guerre à leurs tribus. Cette affection, en la supposant vraie, devient donc pour elle un sujet de reproche. Mais elle n'est point conforme à la vérité, ou du moins elle n'est vraie qu'en partie, et ce mot de mère patrie a été jésuitiquement adopté par le ministre et ses parasites dans l'intention perfide et méprisable de faire illusion à notre faiblesse et à notre crédulité. C'est l'Europe, et non l'Angleterre, qui est la mère patrie de l'Amérique. Ce nouveau monde a été l'asile de tous les Européens persécutés pour avoir chéri la liberté civile et religieuse. En s'y réfugiant, ce n'est point des tendres embrassements d'une mère qu'ils se sont échappés. C'est un monstre dont ils ont fui la rage, et cela est si vrai de l'Angleterre que la même tyrannie qui chassa de son sein les premiers émigrants poursuit encore leur postérité. Dans cette immense portion du globe, nous oublions les étroites limites d'un territoire de 360 000, l'Angleterre n'a pas davantage d'étendue, et nous donnons à notre attachement une échelle plus vaste. Nous appelons à la fraternité tous les Européens qui professent la religion chrétienne, et nous tirons vanité de ce sentiment généreux. Il est satisfaisant d'observer par quelle gradation régulière nous surmontons l'empire des préjugés locaux à mesure que nos relations s'étendent. Un particulier né dans une ville d'Angleterre qui est divisée par paroisses s'associe naturellement davantage avec ses coparoissiens vu que leurs intérêts sont le plus souvent communs et les traite de voisins. Vient-il à les rencontrer à quelques milles du lieu qu'il habite, il abandonne ses idées rétrécies de rue et de paroisse et les aborde en leur donnant le titre de concitoyens. S'il quitte sa province et les rencontre dans une autre, il oublie les divisions subordonnées et les appelle compatriotes, par où, toutefois, il n'entend encore qu'habitants du même comté. Mais si, transplanté chez l'étranger, il se voit en France ou dans quelque autre pays de l'Europe, toutes ces distinctions locales sont absorbées entre eux dans celles que comporte le nom d'anglais, et par une juste analogie de raisonnement, tous les Européens qui viennent à se rencontrer en Amérique ou dans quelque autre partie du globe sont compatriotes, car l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne ou la Suède, lorsqu'on les compare à l'Europe entière, offrent des divisions proportionnellement semblables à celles de rue, de ville et de province, et elles échappent à des âmes qui n'embrassent plus que de grands espaces tels que ceux des continents. Il n'y a pas un tiers des habitants de la province que j'habite qui soit d'origine anglaise. Je réprouve donc le titre de mère patrie appliqué à l'Angleterre comme faux, inventé par son intérêt, propre à rétrécir les idées et contraire à la générosité que tout homme doit avoir dans le cœur. Mais je suppose que nous soyons tous d'origine anglaise. Qu'en faut-il conclure ? Absolument rien. La Grande-Bretagne s'étant déclarée notre ennemi, cet acte abroge tous les titres, tous les noms antérieurs, et c'est vraiment une folie que de prétendre qu'il soit de notre devoir de nous réconcilier avec elle. Le premier roi d'Angleterre de la dynastie actuelle, Guillaume le Conquérant, était français, et la moitié des pairs d'Angleterre sont originaires de France. Il s'ensuivrait donc, dans cette manière de raisonner, que la France devrait gouverner l'Angleterre. On a beaucoup exalté la force qui résulte pour l'Angleterre et les colonies de leur union. L'on a répété 1000 fois qu'ensemble elles pourraient braver l'univers. Mais ce ne sont là que des présomptions. Le sort des combats est incertain. D'ailleurs, ces propos ne portent sur rien de solide, car jamais l'Amérique ne se laissera dépouiller de tous ses habitants pour soutenir les armes britanniques en Asie, en Afrique ou en Europe. Outre cela, que nous importe de pouvoir braver l'univers ? Notre objet est le commerce, et pourvu que nous ne le perdions pas de vue, nous nous assurerons la paix avec l'Europe et l'amitié de ses peuples, parce qu'il est de l'intérêt de toutes les nations européennes de trafiquer librement en Amérique. Le commerce sera toujours le génie tutélaire des Américains, et leurs terres, ne produisant pas les métaux que recherche la cupidité, ils sont à l'abri des invasions. Je défie le plus grand partisan du projet de réconciliation de montrer un seul avantage qui puisse résulter pour ce continent de son union avec la Grande-Bretagne. Oui, je répète ce défi, il n'en doit espérer aucun. Nos blés se vendront dans quelque marché que ce soit de l'Europe. Et de quelque part qu'il nous plaise de tirer nos importations, il faudra toujours les payer. Mais les inconvénients et les dommages auxquels cette union nous expose sont innombrables, et ce que nous devons, tant au genre humain qu'à nous-mêmes, nous ont fait une loi de renoncer à cette alliance. Toute suggestion, toute dépendance à l'égard de la Grande-Bretagne conduit directement à envelopper l'Amérique dans la guerre et les querelles dont l'Europe est le théâtre, et nous met en mésintelligence avec des nations qui, sans cela, rechercheraient notre amitié et contre lesquelles nous n'avons aucun sujet de ressentiment ou de plainte. L'Europe étant le siège de notre commerce, nous ne devons former de liaison particulière avec aucun de ces peuples. Le véritable intérêt de l'Amérique est de n'entrer dans aucune des contestations européennes, et jamais elle n'en pourra venir à bout tant que sa dépendance à l'égard de la Grande-Bretagne la fera intervenir dans tous les mouvements de la politique anglaise. L'Europe compte trop de royaumes pour être longtemps en paix, et toutes les fois que la guerre a lieu entre la Grande-Bretagne et quelques autres puissances, c'en est fait du commerce de l'Amérique à raison de ses liaisons avec l'Angleterre. Il peut arriver que la guerre prochaine n'ait pas la même issue que la dernière. Et dans ce cas, les personnes qui plaident aujourd'hui en faveur de notre réconciliation changeront de langage et désireront que nous soyons séparés de la cause de la Grande-Bretagne, parce qu'alors il sera plus avantageux d'être neutre que d'avoir des escortes. La justice et la nature invoquent cette scission. Le sang des victimes de la guerre, la voix de la nature en pleurs, crie qu'il est temps de nous séparer. Il n'y a pas jusqu'à la distance que le ciel a mise entre l'Angleterre et l'Amérique qui ne démontre que jamais il n'eut dessein de soumettre l'une de ces régions à l'autre. Le temps où ce continent fut découvert ajoute au poids de cet argument, et la manière dont il fut peuplé en augmente la force. La découverte de l'Amérique précéda la réforme, comme si la bonté de l'être suprême avait eu dessein d'ouvrir un sanctuaire aux objets des persécutions futures, lorsque leur patrie ne leur offrirait plus ni amitié ni sûreté. L'autorité que la Grande-Bretagne exerce sur les colonies constitue un mode de gouvernement qui doit cesser tôt ou tard. Et quelque convaincu que puisse être un homme réfléchi que ce qu'il nomme la constitution actuelle est purement temporaire, cette conviction sert à l'affliger, et il ne saurait trouver aucune satisfaction à porter ses regards dans l'avenir. Nous ressemblons à des parents déchus de tout plaisir, dans la triste certitude que le gouvernement sous lequel ils vivent n'est point assez durable pour garantir les propriétés qu'ils laisseront à leurs descendants. Et par un raisonnement très simple, comme nous prenons des engagements au nom de la génération qui nous remplacera, nous devons travailler pour elle. Autrement, nous agirions d'une manière aussi déplorable que honteuse. Afin d'acquérir une idée juste de nos devoirs, élevons nos enfants à notre hauteur et plaçons-nous quelques années plus avant dans la carrière de la vie. Sous ce point de vue, nous aurons une perspective que nous dérobe maintenant un petit nombre de préjugés et de craintes. Plusieurs ont l'avantage de vivre loin du théâtre des calamités. Le mal ne se fait pas assez sentir dans leurs habitations pour qu'ils sentent le peu de certitude attachée aux propriétés américaines. Mais supposons-nous pour un moment à Boston. Ce séjour de détresse dessillera les yeux. Nous y apprendrons à rejeter sans retour une domination à laquelle nous ne pouvons nous fier. Les habitants de cette ville infortunée, qui peu de mois auparavant jouissaient du bien-être et de l'abondance, n'ont aujourd'hui d'autre alternative que d'y rester pour mourir de faim ou de l'abandonner pour aller demander leur subsistance. Exposés au feu de leurs compatriotes, s'ils ne veulent pas s'éloigner de leurs murs, ils courent le risque d'être pillés par la soldatesque s'ils entreprennent d'en sortir. Dans leur situation présente, ils se trouvent prisonniers, sans avoir l'espérance de recouvrer leur liberté, et si l'on faisait une attaque générale pour venir à leur secours, ils seraient en butte à la fureur des deux armées. Des hommes d'un caractère passif traitent légèrement les offenses de l'Angleterre et se flattant toujours que les choses iront pour le mieux, ils s'écriaient volontiers « Venez, venez, nous serons amis malgré vos torts ». Mais étudier les passions et les sentiments du cœur humain, interrogez la nature sur cette réconciliation si prônée, et dites-moi si vous pourrez aimer, honorer, servir fidèlement un maître qui a porté chez vous le fer et le feu. Si vous en êtes incapable, vous vous faites donc illusion à vous-même, et vos délais sont mortels à votre postérité. Votre union future avec l'Angleterre, que vous ne pouvez ni chérir ni honorer, sera forcée et contraire à la nature. Et comme elle n'aura été formée que d'après les circonstances actuelles, un peu de temps amènera une rechute pire que vos premiers griefs. Mais si vous me dites que vous vous sentez la force de les oublier, je vous adresserai les questions suivantes. A-t-on incendié votre maison et détruit votre propriété sous vos yeux? Votre femme et vos enfants n'ont-ils plus de lit pour reposer, plus de pain pour se nourrir? Les soldats anglais vous ont-ils privé d'un père ou d'un fils, en vous laissant l'horrible malheur de survivre à leur perte? Si vous n'avez pas éprouvé ces désastres, vous ne sauriez juger ceux qui en gémissent. Mais si vous les avez éprouvés et que vous puissiez encore serrer la main de ces brigands, vous êtes indigne du nom de père, d'époux, d'amant ou d'ami, et quel que soit votre rang dans la société, de quelque titre honorable que vous soyez revêtu, votre cœur est celui d'un lâche et votre énergie celle d'un sycophante. Ce n'est pas envenimer les choses ou les exagérer que de les soumettre à l'épreuve des affections que la nature justifie, et sans lesquelles nous serions incapables de remplir les obligations sociales ou de goûter les douceurs de la vie. Mon intention n'est pas d'exciter l'horreur afin de provoquer la vengeance, mais d'interrompre le sommeil honteux et funeste où nous sommes plongés pour que nous suivions constamment un plan fixe. Il n'est au pouvoir ni de l'Angleterre ni de toute l'Europe de conquérir l'Amérique si elle n'est pas d'intelligence contre elle-même avec ses conquérants par ses délais et sa timidité. L'hiver dans lequel nous entrons vaut un siècle si nous savons en profiter. Si notre imprudence le néglige, tout le continent partagera notre infortune et quel châtiment ne mérite pas un homme, quel qu'il soit, en quelque lieu qu'il réside, qui empêche que l'on ne profite d'une saison si précieuse. Il répugne à la raison, à l'ordre universel, à tous les exemples que fournit l'Antiquité, de supposer que l'Amérique puisse être longtemps sujette d'une domination étrangère. Les esprits les plus audacieux de l'Angleterre ne le pensent pas. À moins de prononcer la séparation, les derniers efforts de l'humaine sagesse ne sauraient à l'heure qu'il est combiner un plan qui nous promette même un an de sécurité. Toute idée de réconciliation n'est plus qu'un rêve trompeur. La nature s'est retirée de cette liaison. L'art ne peut la remplacer, car, pour me servir d'une excellente remarque de Milton, jamais il ne peut se former de raccommodement véritable où la haine a fait de si profondes blessures. Toutes les mesures tranquilles pour amener la paix ont été sans effet. On a rejeté nos prières avec dédain. Elles n'ont servi qu'à nous convaincre que rien ne flatte la vanité des rois. On ne fait que les confirmer dans leur obstination, malgré des supplications répétées. En effet, n'est-ce pas là ce qui a le plus contribué à rendre les souverains de l'Europe absolus? Le Danemark et la Suède en sont des exemples frappants. Ainsi, puisqu'il n'y a rien à espérer que des armes, pour Dieu, embrassons le parti d'une séparation décisive. Ne laissons point à nos enfants le triste emploi de tuer avec l'insignifiant héritage d'une alliance naturelle que leurs pères auront violée. Il faut être visionnaire pour dire que la Grande-Bretagne ne renouvellera point ses injures. Nous le crûmes lorsqu'elle retira l'acte du timbre, mais un an ou deux suffirent pour nous désabuser. J'aimerais autant supposer que des nations, pour avoir été vaincues une fois, ne reprendront jamais les armes. Quant aux opérations du gouvernement, il n'est pas au pouvoir de l'Angleterre de traiter l'Amérique comme nos intérêts l'exigent. Avant peu, nos affaires seront trop importantes et trop compliquées pour qu'une autorité placée si loin de nous et qui nous connaît si peu les régisse convenablement. Il est aussi impossible à l'Angleterre de nous gouverner que de nous conquérir. Avoir toujours 2 ou 3 000 lieues à faire pour un rapport ou une pétition, attendre 4 ou 5 mois la réponse, avoir besoin, quand on l'a reçue, de 5 ou 6 autres mois pour l'expliquer, ce sont des choses que, sous très peu d'années, on regardera comme un enfantillage et une folie. Cela peut avoir été bon autrefois, mais le temps est venu où il est à propos que cela finisse. Il est tout simple que des royaumes prennent sous leur protection des îles de peu d'étendue, incapables de se protéger elles-mêmes. Mais il y a de l'absurdité à supposer un continent toujours gouverné par une île. La nature n'a point fait de satellites plus gros que leur planète. Et puisque l'une à l'égard de l'autre, l'Angleterre et l'Amérique, renversent l'ordre commun des choses, il est évident qu'elles appartiennent à des systèmes différents. La première à l'Europe, l'Amérique à elle-même. Ce n'est point l'orgueil, la rage des partis ou le ressentiment qui me font embrasser la doctrine de la scission et de l'indépendance. Je suis clairement et positivement persuadé, je le suis dans mon fort intérieur, que le véritable intérêt de l'Amérique consiste à ne plus dépendre de la Grande-Bretagne. Que tout arrangement où celui-là n'entre pas est un pur assemblage de pièces de rapport, qu'il ne saurait produire une félicité durable que par là nous laisserions la guerre à nos enfants, que ce serait reculer au moment où, soit un peu plus, soit un peu moins de hardiesse, aurait fait de ce continent l'orgueil du monde. L'Angleterre n'ayant point fait d'avance pour une réconciliation, nous pouvons être certains de n'en pas obtenir des conditions dignes d'être acceptées, ou qui nous dédommagent, de quelque manière que ce soit, du sang et des trésors que nous avons déjà prodigués. L'objet d'une demande doit toujours être proportionné aux dépenses que l'on a faites pour l'obtenir. La disgrâce de North, ou de toute sa ligue infernale, n'est pas un succès assez glorieux pour nous consoler des millions dont nous nous sommes appauvris. Une suspension momentanée dans notre commerce était un malheur qui aurait suffisamment balancé l'avantage de voir abroger tous les actes dont se plaignait l'Amérique, dans le cas où elle aurait obtenu l'abrogation de quelques-uns. Mais si le continent tout entier doit prendre les armes, si chacun doit devenir soldat, c'est perdre notre temps que de lutter seulement contre un ministère méprisable. Ah, nous payons bien cher l'abrogation des actes qui nous révoltent si nous ne combattons pas pour autre chose. Car, à parler vrai, il est tout aussi extravagant d'essuyer un désastre tel que celui de Bunker Hill pour des lois dont on ne veut pas que pour un territoire auquel on prétend. J'avais toujours regardé l'indépendance de l'Amérique comme un événement qui devait avoir lieu tôt ou tard. D'après la rapidité avec laquelle j'ai vu se mûrir dans ce dernier épisode le caractère de ses habitants, j'ai pressenti que cet événement ne pouvait être fort éloigné. Ainsi, lors des premières hostilités, ce n'était pas la peine, à moins que nous n'eussions pris la chose au sérieux, de discuter des griefs auxquels le temps aurait apporté un remède définitif. S'amuse-t-on à charger son bien d'un procès pour mettre ordre aux envahissements d'un tenancier dont le contrat est sur le point d'expirer? Personne ne désira plus ardemment que moi notre réconciliation avec l'Angleterre avant la fatale bataille de Lexington, donnée le 19 avril 1775, mais à l'instant où l'on rendit public l'événement de cette journée, mais supposez que tout fût maintenant arrangé, qu'en arriverait-il? Je réponds, la ruine de l'Amérique, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, l'autorité demeurant entre les mains du roi, il aura le veto sur toute la législation de ce continent. Or, est-il ou n'est-il pas l'homme fait pour dire aux colonies « Vous n'établirez de loi que celle qu'il me plaira ». Y a-t-il un seul Américain assez ignorant pour ne pas savoir que, suivant ce qu'on nomme la Constitution actuelle, ce continent ne peut faire de loi sans la permission du monarque? Et y a-t-il un seul homme assez dépourvu de sens pour ne pas voir qu'à raison de ce qui s'est passé, il ne nous laissera faire d'autres lois que celles qui répondront au but qu'il se propose? Nous pouvons aussi bien devenir esclaves, faute de lois établies chez nous, qu'en nous soumettant à des lois faites pour nous en Europe. Les choses une fois arrangées, comme on dit, y a-t-il le moindre doute que tout le pouvoir de la couronne ne soit mis en usage pour tenir l'Amérique dans l'état le plus humble? Au lieu d'aller en avant, il faudra reculer ou n'avoir d'autre affaire que de débats continuels et des pétitions ridicules. Réduisons la question à ses derniers termes. Un pouvoir jaloux de notre prospérité est-il propre à nous gouverner? Quiconque soutient la négative est un indépendant, car ce mot d'indépendance implique seulement l'alternative de faire nous-mêmes nos lois ou de ne plus tenir à l'Angleterre. Mais, dira-t-on, le roi a le veto dans la métropole. La nation ne peut y faire des lois sans son consentement. À consulter la raison et le bon ordre, il est passablement ridicule qu'un jeune homme de 21 ans, comme il est arrivé plus d'une fois, dise à plusieurs millions d'hommes, plus âgés et plus sages que lui, « Je défends que tel ou tel de vos actes est force de loi. » Mais je veux bien ne pas employer ici ce genre de réfutation, quoique résolu à ne jamais cesser de montrer l'absurdité d'un pareil usage. Et je me contenterai de répondre qu'il résulte une très grande différence de ce que le roi réside en Angleterre et ne réside pas en Amérique. Le veto du roi est ici 10 fois plus dangereux qu'il ne peut l'être en Angleterre, car il ne refuserait guère son consentement à un bill qui aurait pour objet de mettre la Grande-Bretagne sur un meilleur pied de défense puisqu'il y a fait son séjour, au lieu qu'il ne laisserait jamais passer un tel bill relativement à l'Amérique. L'Amérique ne joue qu'un rôle secondaire dans le système de la politique anglaise. L'Angleterre ne consulte l'avantage de cette contrée qu'autant qu'il se rapporte à ses vues. Son propre intérêt l'engage, par conséquent, à empêcher l'accroissement de notre prospérité toutes les fois qu'il ne tend pas à la sienne. Le bel État que nous formerions dans peu sous un tel gouvernement, d'après ce qui est arrivé. Le simple changement d'un nom ne suffit pas pour que d'ennemis on devienne amis. Et, afin de montrer qu'à présent, les plans de réconciliation nous menacent des plus grands dangers, j'affirme qu'il serait d'une excellente politique pour l'Angleterre d'abroger les actes qui ont fait le principe de nos querelles, en vue de rétablir, dans son ancienne forme, le gouvernement des colonies, parce qu'elle s'assurerait de cette manière le droit et les moyens de nous tyranniser plus que jamais. Deuxièmement, les conditions les plus favorables que nous soyons dans le cas d'espérer devant se réduire à des expédients momentanés ou à une sorte de gouvernement par tutelle qui cessera lorsque les colonies seront majeures, la situation générale des affaires durant cet intervalle ne sera ni solide ni flatteuse. Les riches émigrants n'accourront point dans une contrée où la forme du gouvernement ne tiendra qu'à un fil, où des divisions et des troubles seront sans cesse sur le point d'éclater. Et la plupart des habitants actuels profiteront de l'intérim pour disposer de leurs biens et quitter le continent. Mais le plus fort de tous les raisonnements, c'est que l'indépendance, ou en d'autres termes, une forme de gouvernement dont le siège soit en Amérique, peut seule la maintenir en paix et la préserver des guerres civiles. Je crains aujourd'hui l'issue d'une réconciliation avec l'Angleterre, attendu qu'il est plus que probable qu'elle sera suivie de manière ou d'autre par une révolte dont les suites peuvent entraîner infiniment plus de désastres que toute la malice des Anglais. Leur barbarie a déjà ruiné des millions d'Américains. D'autres millions éprouveront vraisemblablement le même sort. Ceux qui n'ont rien souffert ont le cœur autrement fait que nous. Tout ce que les Américains possèdent aujourd'hui se borne à la liberté. Ce dont ils jouissaient auparavant, ils l'ont sacrifié pour elle, et n'ayant plus rien à perdre, ils dédaignent de se soumettre. Outre cela, la disposition générale des colonies, à l'égard d'une forme de gouvernement exercée par l'Angleterre, ressemble aux idées d'un jeune homme qui touche au moment d'être affranchi de son tuteur. Elles ne s'en mettent guère en peine. Or, tout gouvernement qui n'a pas la force de maintenir la paix n'en mérite pas le nom, et dans ce cas, nos impôts sont sans objet. Car, je demande, en supposant qu'un tumulte s'éleva le lendemain de la réconciliation, ce que l'Angleterre ferait pour le réprimer, elle dont l'autorité ne se manifesterait que par écrit. J'ai ouï dire à quelques personnes, dont la plupart, je crois, parlaient sans réflexion, qu'elles redoutaient l'indépendance des colonies dans l'appréhension qu'elles n'enfantât des guerres civiles. Mais la guerre civile est 100 fois plus à craindre d'une liaison mal assortie que de l'indépendance. Je me mets à la place de ceux qui souffrent, et je proteste que si j'étais chassé d'habitations en habitations, si ma propriété était détruite et ma ruine consommée, naturellement sensible à l'injure, je ne goûterais jamais le système d'un raccommodement et ne me croirais pas lié par l'aveu que mes compatriotes y auraient donné. Les colonies ont fait voir des dispositions si sages et tant d'obéissance à un gouvernement pris dans leur sein que c'en est assez pour tranquilliser sur ce point tout homme raisonnable. Les plus timides ne peuvent alléguer, pour motif de leurs alarmes, que des prétextes ridicules et puérils, comme lorsqu'ils supposent que telle colonie prétendra la supériorité sur telle autre. Où il n'existe point de distinction, il ne peut y avoir de supériorité. L'égalité parfaite ne donne point d'accès aux tentations. Toutes les républiques de l'Europe sont dans une paix continuelle. La Hollande et la Suisse n'ont ni guerres étrangères ni guerres intestines. Au contraire, le repos des monarchies n'est jamais durable. Au-dedans, la couronne séduit toujours quelques scélérats entreprenants, et l'orgueil, l'insolence, campagnes inséparables de l'autorité des rois, amènent de fréquentes ruptures avec les puissances étrangères, pour des griefs ou pour de simples méprises qu'un gouvernement républicain, fondé sur des principes plus naturels, arrangerait par la voie des négociations. Si l'indépendance des colonies est de nature à inspirer quelques craintes, c'est parce qu'on n'a pas encore arrêté de plan à cet égard. Les Américains ne voient pas encore la marche qu'ils doivent suivre. Je vais donc, pour faciliter le travail, présenter mes idées particulières, tout en assurant, avec la modestie qui conviendra dans un pareil sujet, que je les envisage uniquement comme pouvant servir à en suggérer de meilleures. S'il était possible de réunir les opinions éparses des individus, elles fourniraient souvent aux hommes sages et habiles des matériaux dont ils sauraient tirer un parti avantageux. Que les assemblées de chaque colonie soient annuelles, et sans autre officier qu'un président. Que la représentation y soit plus égale, que leur délibération n'ait pour objet que leurs propres affaires, et qu'elle soit soumise à l'autorité d'un congrès général. Que chaque colonie soit divisée en 6, 8 ou 10 districts d'une étendue convenable, dont chacun enverra un certain nombre de députés au Congrès, de manière que chaque colonie en envoie au moins 30. Le nombre des membres du Congrès sera au moins de 390. Le Congrès se formera et choisira son président de la manière suivante. Tous les députés rendus au lieu de ces séances comptent au sort une des 13 colonies et que parmi les députés de celles que le sort aura désignées, tout le Congrès choisisse son président au scrutin. Que dans le congrès suivant, on ne tire au sort qu'une colonie sur 12, en mettant de côté celle qui a fourni le président du dernier congrès, et que l'on continue ainsi jusqu'à ce que les 13 colonies aient subi cette épreuve. Et pour que le congrès ne décrète rien que de juste, les 3/5 des voix formeront seules la majorité. Celui qui excitera la discorde sous un gouvernement dont les bases seront si conformes à l'égalité, aurait été dans le ciel un des complices de la révolte de Lucifer. Mais comme le choix des personnes qui établiront cet ordre, ou la manière dont on s'y prendra pour l'établir, sont des projets d'une nature extrêmement délicate, et comme ce soin paraît regarder plus particulièrement un corps intermédiaire, placé entre le gouvernement et le peuple, que l'on ouvre une conférence continentale sur le plan et pour l'objet que je vais indiquer. Un comité de 26 membres du Congrès, savoir 2 députés de chaque colonie, 2 membres de chaque assemblée provinciale et 5 représentants de toute la masse du peuple qui seront choisis dans la capitale de chaque province, au nom et pour les intérêts de la province entière, par autant d'électeurs que l'on jugera convenable d'en appeler de toutes les parties de la province. On pourrait aussi, pour plus de commodité, choisir les représentants dans deux ou trois districts les plus peuplés de la colonie. La conférence ainsi formée rassemblera les deux grands pivots des affaires, le savoir et l'autorité. Les membres du Congrès et des assemblées provinciales, ayant acquis de l'expérience en discutant les intérêts nationaux, ouvriront d'utiles avis et leur ensemble, revêtu des pouvoirs du peuple, aura véritablement une autorité légale. Les membres de la conférence, une fois assemblés, s'occuperont de rédiger une charte continentale ou charte des États-Unis qui réponde à ce que l'on nomme la Grande Charte de l'Angleterre. Ils y fixeront le nombre et le mode d'élection des membres du Congrès et de ceux des assemblées provinciales, la durée de leur session et la limite précise de leurs travaux et de leur juridiction. Ils ne perdront jamais de vue que notre force aura pour base l'union des diverses colonies en un seul État et non la puissance particulière de chacune d'elles. Ils assureront à chaque individu liberté et propriété et surtout le libre exercice de la religion suivant leur conscience. Enfin, ils inséreront dans leur charte tout ce que doit contenir un ouvrage de ce genre. Dès qu'elle sera terminée, la conférence sera dissoute et les corps choisis, conformément à la charte, prendront l'autorité législative et administrative de l'Amérique pour le temps qui leur aura été prescrit. Si jamais on confie des fonctions de cette importance à une assemblée quelconque, qu'il me soit permis d'offrir aux réflexions de ses membres l'extrait suivant de Draconetti, l'un des plus sages observateurs qui ait existé en matière de gouvernement. La science de l'homme d'État consiste à fixer le vrai point du bonheur et de la liberté. Ce serait acquérir des droits à la reconnaissance de tous les siècles que de découvrir un mode de gouvernement qui, en surchargeant le moins possible le trésor national, offrirait la plus grande somme de félicité individuelle. Draconetti, sur la vertu et les récompenses. Mais où est le roi de l'Amérique, demanderont quelques personnes. Mes amis, je vais vous le dire. Il est au ciel et ne s'amuse point à faire entretuer les hommes. Cependant, pour que nous n'ayons pas l'air de manquer de cérémonies et de pompes terrestres, qu'il y ait un jour solennellement réservé pour la proclamation de la charte. Ce jour-là, qu'elle soit tirée des archives nationales et placée sous l'auguste recueil des lois divines, que l'on pose dessus une couronne afin d'apprendre à l'univers que les Américains sont partisans de la monarchie en ce sens que la loi leur sert de roi. Car de même que dans les gouvernements absolus, la loi réside dans la personne du monarque, dans les pays libres, la loi elle-même doit être le monarque, et il ne doit pas y en avoir d'autre. Mais afin de prévenir les abus qui pourraient s'introduire par la suite, qu'à la fin de la cérémonie on défasse la couronne, et que ces débris soient abandonnés au peuple à qui elle appartient de droit. Le droit naturel nous autorise à nous gouverner nous-mêmes, et lorsqu'on réfléchit sérieusement à l'incertitude des choses humaines, on n'a pas de peine à se convaincre qu'il est infiniment plus sage et plus sûr de rédiger de sang-froid et avec maturité une constitution à notre usage, tandis que nous en avons le pouvoir, que de laisser un objet aussi important à la disposition du temps et du hasard. Si nous le négligeons maintenant, il peut s'élever après nous un Massaniel qui, profitant de l'inquiétude populaire, rassemble les mécontents et les gens sans ressources et, s'emparant avec eux des rênes du gouvernement, anéantissent sans retour la liberté de l'Amérique. Si l'administration retourne aux mains de la Grande-Bretagne, il se trouvera quelque aventurier qui, n'ayant rien à perdre et tenté par la situation équivoque de nos affaires, essaiera de nous assujettir. Et dans ce péril, quel secours attendre de l'Angleterre? Avant qu'elle en ait reçu la nouvelle, le coup fatal sera porté et nous gémirons comme les Anglais du temps d'Harold sous la tyrannie d'un conquérant. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous tous qui rejetez le parti de l'indépendance. Vous favorisez l'établissement d'une éternelle oppression. Des milliers de nos frères pensent qu'il serait glorieux de chasser du continent cette puissance infernale et barbare qui a suscité les sauvages et les nègres pour notre destruction. Cruauté empreinte du sceau d'un double crime, l'inhumanité envers nous, la perfidie à l'égard de ceux qui l'ont commise. C'est être dans le délire que de parler d'amitié entre nous et des hommes en qui notre raison nous défend d'avoir confiance. pour qui nos plus tendres affections, blessées de mille manières, ne nous inspirent que de l'horreur. Chaque jour efface entre eux et nous les faibles restes de notre parenté. Et doit-on se flatter de voir croître l'attachement à mesure que nos liaisons naturelles s'affaiblissent, ou bien que nous vivrons en meilleure intelligence lorsque nous aurons des sujets de querelle plus graves et plus nombreux que jamais? Vous qui nous parlez de bonne harmonie et de réconciliation, pourriez-vous nous rendre le temps qui s'est écoulé? Pourriez-vous replacer dans son état d'innocence primitive une victime de la prostitution? Eh bien, vous ne pouvez pas davantage réconcilier l'Angleterre et l'Amérique. Le dernier fil est rompu. Le peuple en Angleterre présente des adresses contre nous. Il est des outrages que la nature ne pardonne jamais. Elle cesserait d'être la nature s'il lui arrivait de les pardonner. Il n'est pas plus au pouvoir de l'Amérique d'oublier les meurtriers qui lui sont venus d'Angleterre qu'au pouvoir d'un amant d'effacer de son souvenir le ravisseur de sa maîtresse. Ce n'est pas sans une intention bonne et sage que le Tout-Puissant a mis ses affections dans nos cœurs. Son image y est sous leur garde. Elle nous distingue de la foule des brutes. Le pacte social se dissoudrait, l'équité disparaîtrait de la terre si nous étions sourds à la voix de la sensibilité. Que de fois le vol et le meurtre demeureraient impunis si nos passions outragées ne nous provoquaient à la justice. Ô vous qui chérissez les hommes, vous qui ne craignez pas de lutter contre la tyrannie, de quelque part qu'elle vienne, montrez-vous. Toutes les contrées de l'ancien monde sont en butte à l'oppression. La liberté s'est vue poursuivie dans tous les points du globe. Depuis longtemps, l'Asie et l'Afrique l'ont repoussée. L'Europe la regarde comme une étrangère et l'Angleterre lui a donné le signal du départ. Ah, recevez cette fugitive et préparez, avant qu'il soit trop tard, un asile au genre humain.